Je suis un journaliste de passage qui oubliera les nomades dans quelques semaines en finissant son article au moment de partir en vacances dans les Landes ou en Sardaigne. Je devrais me lancer dans une tirade, expliquer que mon reportage contribuera à sensibiliser les Français au sort des Hadza. Mais non, il fait trop chaud et au fond, c'est un argument fallacieux. Un article lu aux toilettes par quelques professeurs à la retraite peut-il changer le destin des nomades tanzaniens ?
Bienvenue au 116 rue Albert Londres. Qui dit grand reportage fait entendre immersion dans un lieu, un contexte, un événement, une société humaine, une étrangeté. S'immerger, c'est prendre le temps de se glisser dans le sujet, de l'appréhender sous tous ses aspects, en tentant d'en saisir les moins visibles ou les plus fuyants, le temps d'en sortir afin de témoigner. À cet égard, le temps journalistique est souvent très frustrant, trop court, trop vite, elliptique, mensonger à force de paraître omniscient. Le grand reporter indépendant Alexandre Kaufmann est-il un journaliste écrivain ou un écrivain journaliste ? Il est un voyageur, ça au moins c'est certain. Avec une trentaine de pays visités en une quinzaine d'années, il aura tout connu. L'impression de gâchis laissé par des missions trop brèves, mais aussi le souvenir de longs moments d'observation quasi ethnologique passés dans des endroits lointains comme chez les archers Hadza dans le bush tanzanien. Si différents, si proches, une diversité de cultures, une seule humanité. À l'issue d'études de philo et de sciences politiques à Paris, Alexandre Kaufmann se destinait à la diplomatie. Un séjour loin d'ici pour préparer le concours l'a réorienté vers l'écriture. Journaliste écrivain ou écrivain journaliste ? Peu importe, il n'a plus cessé de voyager. De voyage, du temps journalistique, du reportage ethnologique, voilà de quoi nous allons parler tranquillement. Pas de quoi se presser, nous sommes ensemble pour une heure. Vous êtes au 116 rue Albert Londres, vous êtes sur France Inter. Alexandre Kaufmann, quand je suis arrivé au terme des 237 pages du livre Black Museum, récit que vous publiez chez Flammarion, j'ai eu un sérieux doute, je l'avoue. J'ai cru un moment que vous vous moquiez de vos lecteurs et que votre séjour chez les Hadza, chasseurs-cueilleurs du bush tanzanien, n'était qu'une supercherie, que ces Hadza n'existaient pas et n'avaient jamais existé. J'ai même pensé, un peu parano, d'accord, que vous aviez été capable de créer une page Hadza sur Wikipédia. En fait, non. Il n'y a pas de supercherie. Les Hadza existent bel et bien. Comment, pourquoi, dans quelles circonstances avez-vous été amené à les rencontrer pour la première fois?
Alors j'ai été amené à les rencontrer un peu par hasard, mandaté un peu à la dernière minute par le magazine Géo pour écrire un texte sur les photos d'un photographe qui s'appelait Pierre de Vallombreuse, enfin qui s'appelle toujours puisqu'il est encore vivant. Et donc je suis un peu parti à la dernière minute sans vraiment connaître beaucoup de choses sur cette tribu nomade qui s'appelait les Hadza. Et donc j'ai juste croisé le photographe qui lui était sur le chemin du retour. Et je suis parti avec un guide, une voiture et puis tout l'équipement pour camper en brousse dans le près d'un lac qui s'appelle le lac Eyasi, qui se trouve dans le nord tanzanien. Et donc je suis parti comme un touriste au départ à la rencontre de ce qui se présentait comme ces Hadza. Donc on part avec souvent d'autres touristes et là on découvre autour d'un feu des hommes qui portent des peaux d'antilope et qui vous emmènent chasser le porc-épic.
Alors les Hadza, ils vivent dans la savane, donc en Tanzanie, parmi les acacias près du lac Eyasi. Ils ne sont plus qu'un millier, c'est très très peu. On peut dire que le fait de vous envoyer rencontrer les Hadza dans le but de leur consacrer un reportage revenait à vous faire chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand on est journaliste indépendant, il faut être capable pour gagner sa croûte de trouver les aiguilles dans les bottes de foin. On en a tous fait l'expérience, indépendant ou non. Ça, pour vous, c'était en 2010. Vous avez répondu oui au magazine Géo qui vous a commandé ce travail. Et voilà ce que vous en dites à la page 13 de votre livre Black Museum.
Au vu des délais qui me sont impartis, j'entrevois déjà l'un de ces articles douloureux à écrire, où l'on s'emploie moins à donner des informations qu'à cacher l'ampleur de son ignorance. D'après le reportage du National Geographic, La présence des Hadza sur les rives du lac Eyasi, à l'est de la vallée du Grand Rift, remonterait à plusieurs dizaines de milliers d'années. Au sein de cette société, dont la langue est ponctuée de consonances à clic, il n'y aurait aucune prétention à la propriété, ni chef, ni doctrine religieuse. Le journaliste précise, j'ignore si ces assertions sont dignes de foi, je pense en réalité qu'elles sont trop belles pour être vraies, que des études génétiques associent les Hadza à l'une des plus anciennes branches de l'arbre généalogique humain.
Au vu des délais qui me sont impartis, c'est-à-dire, Alexandre Kaufmann, de combien de temps disposiez-vous pour faire ce reportage chez les Hadza?
En fait, je disposais de plutôt beaucoup de temps.
C'est-à-dire
15 jours, ce qui est quand même plutôt un luxe en général.
15 jours pour retrouver une peuplade paumée dans la savane tanzanienne.
Ouais, alors au début, c'était un peu les fausses peuplades, c'est-à-dire les peuplades touristiques qui, elles, du coup, étaient quand même beaucoup plus faciles à trouver puisqu'elles se produisaient, elles faisaient des sortes de ethnic shows spécialement dédiés aux touristes. Donc, c'était quand même plus facile à trouver. Mais en général, 15 jours, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, si je suis plutôt de caractère inquiet, j'ai toujours l'impression de manquer de temps. Et c'est vrai que des fois, on a plus l'impression de s'employer à cacher son ignorance qu'à donner des informations.
Enfin, 15 jours quand même pour trouver des gens qui sont là depuis 40 000 ans, qui sont en voie de disparition, ça paraît quand même très court. Vous posez d'ailleurs, en disant au vu des délais qui me sont impartis, la question de ce que l'on peut appeler le temps journalistique. On connaît le principe, hein, on vous dit toujours le temps c'est de l'argent. Vous entendez des choses du genre, si tu pouvais partir au bout du monde pour nous rapporter 15 pages d'un excellent reportage à condition d'être rentré ce soir, ce serait parfait. On est loin, il faut l'avouer, de l'époque où les grands reporters comme Albert Londres passaient parfois plusieurs mois sur le terrain. À l'époque, il faut dire qu'ils ne se déplaçaient pas avec la facilité que l'on connaît aujourd'hui. C'est vrai.
Ouais, bien sûr, mais c'était quand même pas si court par rapport aux critères d'aujourd'hui, je trouve. 15 jours. Mais bon, finalement, je suis quand même resté sur ma faim à l'issue des 15 jours. C'est pour ça que j'y suis retourné.
Alors, qu'avez-vous découvert, qu'avez-vous appris sur les Hadza au cours de ce premier contact pendant ces 15 jours de reportage? Vous dites que vous avez vu d'abord une sorte de vitrine avec des gens qui étaient là pour les touristes. Continuez.
Voilà. Bah donc en fait, au départ, on voit des gens qui parlent cette langue à clic qui est assez particulière. Et puis d'une visite à l'autre, parce que du coup, moi, j'allais à plusieurs visites touristique, puisque j'avais 15 jours sur place, je me suis aperçu qu'il y avait la moitié du groupe qui déjà n'était pas Hadza. Ils avaient été enrôlés, c'était un peu des alcooliques ou des traînes savates, et les Hadza leur avaient dit, ah, mais venez si vous voulez vous faire de l'argent, venez avec nous, vous cliquez devant les touristes, et puis vous allez ramasser un petit peu d'argent. Et donc j'ai commencé à m'apercevoir de ça, donc je trouvais ça, en fait finalement j'ai trouvé ça assez drôle très vite, c'est un espèce de jeu d'identité, jeu de miroir assez drôle, et puis vite devenu une espèce de comédie de brousse, et donc je pouvais circuler dans les coulisses de cette comédie de Bruce, avec toute une galerie de personnages. Donc il y avait un prêtre, ancien danseur de flamenco, qui voulait essayer de les évangéliser. Il y avait un anthropologue qui voulait surtout pas que son objet d'étude change, donc qui était un peu en rivalité avec moi.
Il avait peur qu'on lui pique son objet d'étude.
Hein. Oui, il avait peur qu'on le dénature. Mmh. Ouais, plutôt.
Il avait une belle collaboratrice quand même, hein, j'ai l'impression.
C'est vrai, hein, il avait une belle collaboratrice.
Vous avez failli partager la tente de cette collaboratrice, ou en tout cas,
l'autoriser
à partager la vôtre.
J'étais totalement concentré sur mon sujet journalistique.
J'en suis sûr, ouais, ouais. Si je résume, on vous demande de vous rendre en Tanzanie, sur la côte est de l'Afrique, à près de 7000 km de la France. En moins de 15 jours, vous devez approcher les derniers représentants d'une ethnie d'archers nomades, une ethnie vieille de 40 000 ans. Vous faites le boulot, vous rendez votre article. Vous ressentez alors une honte et une frustration, et vous décidez de retourner sur place. Avant de continuer, Alexandre Kaufmann, revenons sur un détail que vous venez d'évoquer, que vous évoquez dans le livre, et vous précisez que les Hadza parlent une langue à clic. Écoutons ce que ça donne.
Shasha kaebe akwangwa ko taye ita cha cha bichiku itzu ani kwa goma akheke o ukulebe apa ko kuwebe apa kugwa ko.
On entend bien les clics, hein, de la langue Hadza dans cet enregistrement que vous avez rapporté de Tanzanie. La Tanzanie, vous êtes retourné, Alexandre Kaufmann, d'abord durant 3 mois pour la revue Long Cours, puis beaucoup plus longtemps, pendant 2 années pleines, 2 années que vous avez passées dans la ville d'Arusha avec des séjours plus ou moins longs chez les Hadza. Combien y a-t-il de clics différents dans la langue de ces bushmen tanzaniens? Est-ce que vous le savez,
Alexandre? Alors là, vous Kaufmann. Me posez une colle, mais je peux produire un autre chiffre, qui est que l'ensemble de l'humanité avant cliquait. C'est-à-dire qu'on a tous cliqué.
On a tous cliqué un moment.
C'était lié apparemment à la chasse. Et ensuite, nos facultés phonétiques se sont appauvries. Et donc si je peux vous répondre, en fait, la langue à clic compte à peu près 150 sons, pendant que l'anglais courant n'en compte que 30.
Parce qu'il n'y a pas qu'un clic, hein. Il y en a de différentes sortes. La langue est placée différemment à l'intérieur de la bouche.
Il y en a de différentes sortes, oui. C'est très dur d'ailleurs d'apprendre la langue quand on n'est pas né dans l'environnement linguistique des Hadza. C'est vraiment très dur
d'apprendre. Essayez de cliquer, vous allez voir la difficulté de la chose. Dans l'enregistrement que nous venons d'entendre, mis à part les clics de cette langue Hadza, que ne parlent plus d'ailleurs que 200 personnes, hein, je crois.
Ah bah non, 1000 en fait, parce qu'ils sont 1000.
Ils sont 1000, mais j'ai vu quelque part qu'il y en avait plus que 200 qui parlaient vraiment la langue à clic, que les autres en fait étaient beaucoup plus accoutumés au swahili, qui la langue véhiculaire de l'Est africain.
Non, ils sont quand même plutôt 1000 parce qu'en fait c'est justement un des critères pour ça, pour eux savoir, parce que ça c'est aussi tout un débat, savoir qui est Hadza ou qui ne l'est pas. C'est ça passe principalement par le fait de savoir qui parle Hadza ou ne parle pas Hadza. Et non, je pense qu'ils sont à peu près un millier. Hein. Mais bon, c'est difficile.
Ce qui est déjà
pour
beaucoup.
Des nomades.
En tout cas, on perçoit deux choses dans cet enregistrement, le rire des Hadza et la toux. Rire et tousser, ça ne sentirait pas un peu la marijuana, tout ça, voilà. Cette affaire.
C'est vrai
Alexandre Kaufmann.
Quand on venait, quand j'allais leur rendre visite, souvent j'apportais des cadeaux. Donc souvent c'était de l'ougali, qui est en fait du maïs concassé, de la farine de maïs, des oignons. J'apportais aussi des fois des téléphones. Mais alors si j'apportais pas de marijuana, j'étais
pas de contact.
Enfin, ils auraient vraiment été déçus. Et alors au début je me disais, est-ce que c'est vraiment sérieux de leur apporter de la marijuana? Et puis ensuite, en me documentant, je me suis aperçu qu'en fait ça faisait plus d'un siècle qu'ils échangeaient de la marijuana contre du miel. Donc en fait, ils se procuraient de la marijuana depuis plus d'un siècle.
Et comme puis, le voilà. Cat dans la péninsule arabique ou dans des endroits comme ça.
Voilà.
En gros. Hein. Pendant les deux années que vous avez passées en Tanzanie avec des incursions régulières donc chez les Hadza, vous avez eu le temps d'observer, de relever pas mal de détails. Le mois dernier, M, le magazine du Monde, publiait de vous un article consacré au safari que l'on peut faire en Tanzanie. Et voici ce que vous y écriviez. La découverte des tribus locales orchestrées par les hôtels, fussent-ils de luxe, prend souvent des airs de zoo humain. En Tanzanie, les chasseurs Hadza de babouins ont fait de ces visites un spectacle purement artificiel. Vêtus de peaux d'impala poussant des grognements sauvages, ils offrent aux occidentaux ce qu'ils attendent, l'image d'un peuple fossile surgit de la nuit des temps. La demande étant supérieure à l'offre, la plupart des figurants, vous venez de le dire, n'appartiennent même pas à la tribu Hadza. Alors qu'il s'agisse des scientifiques, et ça, c'est moi qui reprends la parole, des scientifiques ou des touristes qui affluent en Tanzanie en quête d'émotion, on peut dire que tout le monde se pique un peu d'anthropologie ou d'ethnologie dans ces endroits-là. On vient regarder l'autre, comme si on avait besoin de ça pour mesurer à quel point nous, les Occidentaux, le plus souvent les Blancs, pour faire court, nous avons évolué dans l'histoire humaine. Maintenant, je veux vous faire entendre un document sonore qui devrait vous plaire, Alexandre Kaufmann. Ce document a été diffusé, j'espère en tout cas qu'il vous plaira, il a été diffusé le 9 janvier 1996 dans l'émission de France Inter « Là-bas, si j'y suis ». Daniel Mermet se trouvait en Argentine et plus précisément en Terre de Feu sur les traces des Indiens Yamanas ou Yagans, réputés pour être les premiers habitants de cette région de l'extrême sud des Amériques. Au cours de ce reportage, l'enseignant-chercheur de l'Université de Buenos Aires, Ernesto Piana, racontait à Mermet qu'au 19e siècle, en 1889, des Indiens Yamana ont été emmenés de force en France afin d'offrir aux visiteurs de l'Exposition universelle de Paris, en plus de l'inauguration de la Tour Eiffel, c'était cette année-là, une attraction humaine, un spectacle anthropozoologique constitué de sauvages venus de la lointaine Terre de Feu. Alors retour en Argentine, on a bombardé de questions ces Indiens Yamanas, bien sûr, et cela a donné lieu à une magnifique réponse. Écoutez.
Quelques médecins s'occupaient d'eux et essayaient de parler avec eux tout le temps.
Comme si hicieran una investigación etnográfica.
Comme s'ils faisaient une recherche ethnographique.
Cuando ya casi estaba terminado todo y estaban por volver.
Quand ils étaient déjà en train de rentrer au sud.
Le dijeron, bueno, ¿qué es lo que más le llamó la atención? La Tour Eiffel, París, el Nuevo Mundo.
On les a demandé qué es que attiré le plus son atención.
Y esta mujer a la Calouf respondió.
Et cette femme à la Calouf a répondu
que lo que más le llamaba la atención,
que ce qui l'attirait le plus l'attention,
era que no entendía por qué los franceses se guardaban los mocos en el bolsillo.
C'était pourquoi les Français gardaient ces morves dans sa poche.
C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Voilà, c'est l'ethnologie de l'autre côté.
Oui, oui.
La morve dans la poche. Je crois que le rire derrière Daniel Mermet était celui de Zoé Varier, elle me le confirmera certainement. Bref, ces Indiens étaient étonnés et sans doute écœurés quand ils voyaient les visiteurs français de l'exposition universelle de 1889 se moucher dans une pièce de tissu et mettre, en effet, leur morve dans leur poche. Ça se fait encore d'ailleurs. Hein. Alexandre Kaufmann, c'est quand même une sacrée leçon. On est donc toujours le sauvage, toujours l'anthropologue de l'autre.
De l'autre, ouais. Et c'est un peu l'histoire que raconte d'ailleurs Montaigne quand il a rencontré trois chefs Tupinamba, qui sont des Indiens, des Amérindiens, à Rouen, c'était à la fin du XVIe siècle, donc le siècle de la guerre des religions, et ils interrogent à un moment, par le truchement d'un interprète, ils demandent à ces Indiens, qu'est-ce que vous trouvez curieux finalement en France? Et alors ils répondent deux choses, ils disent, d'abord c'est bizarre qu'il y avait le Charles IX, le roi qui était là, qui avait 10 ou 12 ans, et on comprend pas comment tous ces gens obéissent à un enfant, c'est-à-dire des gens avec des barbes, ils parlaient des gardes suisses, peuvent obéir à un enfant. Et la deuxième chose, on comprend pas pourquoi les gens qui dorment dehors et qui n'ont rien dans la rue ne prennent pas à la gorge tous les riches pour leur prendre leur richesse. Donc c'est à peu près le même principe.
Et en Tanzanie, les Hadza, en vous regardant et en vous observant, parce qu'ils devaient vous observer du coin de l'œil, même s'ils semblaient assez souvent indifférents à ce que vous faisiez d'ailleurs parmi eux, d'après vous, qu'ont-ils pu remarquer, qui aient pu les surprendre?
Une des choses qui les a plus surpris, c'est que justement, une fois, ils voulaient se rouler un joint, ils n'avaient plus de papier, et donc ils lorgnaient sur mon carnet de notes.
Et donc j'ai dû... Le carnet de notes d'un journaliste, non.
Et mon carnet de notes, il était presque plein, donc j'ai dû choisir des pages qui m'intéressaient moins, et j'en ai tendu une qui était couverte de pattes de mouche. Moi, j'ai une écriture un peu obsessionnelle, un peu petite et penchée, et vraiment, là, il m'a regardé en regardant l'écriture, et il m'a jeté un regard un peu plein de compassion, et il avait l'air triste pour moi, et donc ça, je pense que ça l'a vraiment étonné. Et puis le fait aussi que j'ai toujours mes clés avec moi, que je ferme toujours tout, je mettais encore mes affaires dans mon 4x4, ça aussi, ça les faisait quand même plutôt rire, quoi.
Combien de séjours vous avez pu faire pendant ces deux années? Vous êtes allé combien de fois chez Hadza?
J'y suis allé 6 fois. J'ai même emmené mes parents, en fait, là-bas, qui ont 70 ans. Et donc, j'y suis allé 6 fois en tout. Ouais.
Ça leur a plu à vos parents?
Oui, ça leur a beaucoup plu.
Exotique. Hein. Le journaliste, écrivain, voyageur Alexandre Kaufmann est aujourd'hui l'invité de 116 rue Albert Londres. Et nous reprendrons cet entretien dans un instant, juste après quelqu'un que l'on ne présente plus.
France Inter, 116 rue Albert Londres, Alain Le Gouguec.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces. Le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Alexandre Kaufmann, vous êtes l'invité de 116 Rue Albert Londres. Vous publiez, je le rappelle, Black Museum, votre sixième livre, récit chez Flammarion d'un trop court, puis d'un long séjour de 2 ans en Afrique chez les chasseurs-cueilleurs Hadza dans le bush tanzanien. Derrière le fantasme rousseauiste, Alexandre Kaufmann, vous découvrez des archers nomades à moitié ivrognes et fumeurs de joint qui réclament à leurs visiteurs de la nourriture, de la marijuana, et des recharges pour les téléphones mobiles qu'ils sortent de sous leur pagne dès que les touristes ont tourné les talons. Mais ce serait un tort de ne s'en tenir qu'à cette image plutôt désolante. La preuve, on peut la lire page 176 et 177 de Black Museum.
Oya se faufile dans les arbres, promenant son regard d'une frondaison à l'autre. Avec Goudo, il imite le chant des passereaux. 2 notes sifflées en boucle. Des oiseaux leur répondent au loin. La même variation binaire. L'un d'entre eux conduit bientôt les archers vers un grand acacia. Oya le prend d'assaut, l'ébrèche à la hache, jette de la paille en feu dans la fissure, puis plonge ses bras dans les entrailles fumantes. Il en retire des blocs sombres et alvéolés qu'il brise au pied de l'arbre. Les lèvres collées sur les éclats, j'aspire le miel, le meilleur qu'il m'ait été donné de goûter, malgré les petites mouches qui l'encombrent. Quant à la cire qui reste dans la bouche, elle se mâche comme du chewing-gum. Nous abandonnons les débris de la ruche dans le lit de la rivière à la disposition des oiseaux. Les malgaches des hauts plateaux retournent leur mort en musique. Les guayaquis du Paraguay frappent les jeunes femmes avec des pénis de tapir pour exciter leurs désirs. Les aborigènes d'Australie délimitent leurs frontières en chantant. Les poètes français se pendent au réverbère. Les femmes nouères du Soudan se marient avec des fantômes. Les Hadza, eux, converse avec des passereaux annonciateurs de miel.
Cette fois, Alexandre Kaufmann, vous êtes pris en flagrant délit. Vous êtes clairement sous le charme de ces Hadza. L'idée du peuple premier, plus proche de la nature que le reste de l'humanité, n'est plus un fantasme, une maladie congénitale de la littérature, comme il vous est arrivé de l'écrire. Là, vous trouvez ce qu'on vous a envoyé chercher dans un premier temps.
Ouais, là, c'est vrai que c'est d'ailleurs c'est une des choses les plus incroyables que j'ai vues de ma vie, c'est de voir donc les Hadza converser vraiment avec des passereaux et qui les menaient vers les ruches de miel. C'était totalement incroyable de voir ça. Et alors là, oui, c'est vrai qu'on tombe un peu.
On sent bien votre émerveillement, hein, dans les mots que vous mettez dans ce livre.
Mais c'est vrai que là, ça tombe un peu dans la fiction d'un peuple plus proche de la nature, mais il y a plein d'autres choses qui plaident dans l'autre sens, hein, aussi, parce que justement ce que j'avais essayé de montrer, c'est que ils sont très loin d'être un peuple figé, un peuple qui a traversé les âges identiques à lui-même. Au contraire, ils ont pas cessé de s'adapter, de prendre des choses à d'autres sociétés, de s'adapter à notre modernité beaucoup beaucoup plus qu'on ne le croit, justement en prenant des cartes mémoire, des téléphones.
Pour les téléphones,
voilà.
Mm-hmm. Au passage, l'histoire des pénis de tapir chez les Indiens d'Amérique latine, c'est vrai ça?
Alors je me remets, c'est un ethnologue qui s'appelle Pierre Clastre, qui est mort prématurément, qui décrit ça et qui a écrit un livre vraiment très beau sur les Indiens guayaquis, s'appelle Chronique des Indiens guayaquis, et je m'en remets à lui pour la véracité de cette pratique.
L'ethnologie est toujours présente chez vous. Vous avez de l'admiration pour Claude Lévi-Strauss. Vous êtes même allé sur ses traces pour le Figaro Magazine il y a quelques années au Brésil, en Amazonie.
Ouais, c'est, j'ai une admiration pour lui, et en même temps, il a quelque chose d'insaisissable, on essaie toujours de l'attraper, c'est une espèce de cathédrale intellectuelle qui se retourne toujours à mesure qu'on essaye de l'attraper, mais en tout cas, oui, ça m'a, en tout cas, la lecture de Triste Tropique, surtout, m'a beaucoup marqué, et je pense que si je suis resté peut-être aussi longtemps près des Hadza, c'était parce que ce livre m'avait beaucoup marqué.
Vous avez travaillé pour Géo, on l'a dit, pour la revue Longcourt, Le Monde, Le Figaro Magazine, VSD, Les Échos, entre autres titres de presse. Par vos reportages, mais aussi par vos livres, quand ce sont des récits, vous aidez vos lecteurs à voyager sans tomber dans l'image d'Épinal. Vos séjours à Madagascar, au Mozambique, en Thaïlande, en Tanzanie, vous ont inspiré, en plus de vos reportages, des livres. Il y en a un qui sort du lot, tout en relevant lui aussi de la démarche ethno-anthropologique qui semble être votre marque. Ce livre s'intitule « Engagé ». Il a été publié chez Grasset en 2011. Ce récit, ce témoignage, vous l'avez écrit avec l'homme qui en était le sujet même, le lieutenant Nicolas Barthes du 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Et pour écrire « Engagé », vous êtes allé, Alexandre Kaufmann, vous êtes allé vivre pendant près d'un mois en Afghanistan, où le lieutenant Barthes commandait alors la trentaine d'hommes d'une section de combat. Vous partiez avec eux quand ils allaient chatouiller les insurgés, selon leur expression.
Ils acceptaient de m'emmener avec eux, mais j'étais qualifié de cible molle, puisqu'en fait, je n'étais pas armé. Donc j'étais souvent un boulet pour eux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils me le disaient. Et la plupart du temps, lorsqu'ils partaient en opération, ils me cantonnaient en fait aux appuis sur le flanc des collines, sur les appuis de l'artillerie, pendant qu'eux allaient dans ce qu'ils appelaient la zone verte. C'est un masque de végétation qui était au creux des vallées, où là, il y avait des contacts très rapprochés. Et donc voilà. Et donc nous, on était aussi des fois pris à partie par des tirs qui venaient du fond de la vallée sur les appuis.
Donc vous avez connu le feu en Afghanistan.
On peut dire que j'ai connu le feu avec eux, oui.
Pendant les 6 mois passés en OPEX, en opération extérieure dans la vallée de la Kapisa, le lieutenant Nicolas Barthes a eu à déplorer la mort de plusieurs de ses camarades. À l'époque, c'était en 2010, le livre est sorti en 2011, lui en mai 2011. Et à cette époque, les Françaises et les Français ne sont pas tellement apitoyés sur le sort de tous ces jeunes gens partis pourtant en leur nom, hein, puisque c'est la représentation nationale qui les y a envoyés, puis le chef de l'État, commandant en chef des armées, qui les ont envoyés dans les montagnes afghanes pour combattre le danger islamique après les attentats du 11 septembre 2001. Je vous propose d'entendre ce que disait l'un de ces militaires rencontrés en juin 2011 sur la base de Tora dans le district de Sourobi, extrait du magazine Interception du 11 septembre 2011. Là, vous avez connu déjà une mission avec autant de risques ?
Non, du tout. Pour nous, c'est vraiment la plus dangereuse.
C'est la plus dangereuse,
ouais. Il n'y a que des héros ici, voilà.
Vous le pensez vraiment ou vous le dites en plaisantant ?
Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai commandé des gens qui étaient superbes. Voilà, tout le monde se dépasse. Et...
Vous êtes admiratif, ouais, des gens qui vous entourent.
Ah oui, et de mes chefs et de mes subordonnés. C'est... Ici, on voit le fond, quoi, des hommes. Quoi. C'est...
En sachant, ouais, qu'ils vous admirent aussi. C'est forcément réciproque, puisque vous êtes là.
Je sais pas.
Et vous, Alexandre Kaufmann, vous êtes rentré de cette expérience afghane avec quelles impressions ?
Une impression partagée. Je connaissais pas du tout l'univers de l'armée, donc c'était au début très exotique pour moi, et j'ai été vraiment très très bien traité par eux. Ensuite, évidemment, j'étais un peu plus sceptique sur les enjeux de cette guerre qui était principalement chapeautée par les Américains et sur l'efficacité de leur action. J'ai été marqué en fait par le courage et le professionnalisme des gens de tous ces militaires qui nous encadraient. Après, sur les enjeux qui entouraient leur intervention, j'étais plus sceptique, quoi.
C'était un livre de commande ?
Oui, c'était un livre engagé. De commande. En fait, moi, j'intervenais comme ghostwriter, comme on dit. C'est-à-dire que je prêtais ma plume au lieutenant Nicolas Barthes, et donc écrivant à la première personne pour lui. Donc, depuis, on est restés amis, d'ailleurs. Et voilà, on a.
Vous êtes resté en contact avec lui ?
Oui, je suis resté en contact avec lui. Il s'est marié l'été dernier, et j'ai pas pu y aller parce que j'étais en Tanzanie.
Qu'est-il devenu ?
Et donc alors il était à Vigipirate, il participait aux opérations Vigipirate il y a pas très longtemps à Paris, et il était, me semble-t-il, passé par les Antilles, et ensuite
il est passé au Gabon aussi à un moment, non?
Au Gabon, vous êtes bien renseigné.
Oui, ouais. Bah j'ai travaillé le dossier et j'ai cru voir,
ouais,
ça. Oui,
c'est exact. Il est passé au Gabon et ensuite là, je crois que récemment, il était du côté de Strasbourg.
Il est toujours lieutenant ou est-ce qu'il est monté en grade?
Je crois qu'il est capitaine maintenant.
Il est capitaine. Ouais. Et lui était volontaire pour écrire ce livre, parce que c'est un peu un exercice de communication de la part de l'armée aussi, ça. Pour qu'on vous ait autorisé à intégrer une section de combat en Afghanistan, dans la Capissa.
Il fallait le consentement de l'armée, et c'est aussi, il fallait composer avec ça. Et le lieutenant Barthes, il était totalement partant, puisque justement, c'est un des traits de son caractère, c'est vraiment le volontarisme. Et donc, il a vraiment joué le jeu à plein, quoi.
Comment se passait la vie dans cette base, sur cette base de Tagab?
Alors ça, c'était vraiment une expérience sociologique impressionnante, puisque finalement, il y avait un millier de personnes.
Là, vous êtes plus près de la sociologie, c'est-à-dire le métier de base de Claude Lévi-Strauss que de l'ethnologie. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est une expérience curieuse de voir mille personnes enfermées dans une base, puisqu'ils peuvent pas sortir, puisque l'environnement était vraiment très hostile. Alors il y avait à peu près, donc il y avait 1000 hommes et à peu près une dizaine de femmes seulement, qui elles n'étaient pas vraiment combattantes, c'était des militaires, mais qui intervenaient plutôt dans le domaine de la santé. Et donc il y avait une sorte de tension sexuelle, je dirais, qui était impressionnante à regarder. Et puis on voyait aussi les affaires sentimentales des militaires qui géraient ça sur leur compte Facebook auquel ils avaient accès. Alors des fois, il y en a certains qui se faisaient plaquer par leurs copines. Ils voyaient leur remplaçant sur Facebook. Ils ont même un nom pour qualifier l'homme qui drague leur femme restée en France. C'est Kevin. Le Kevin, ils disent, est-ce que t'as un Kevin?
C'est sympa pour tous ceux qui se prennent
pour Kevin. Ceux qui
Kevin. C'est le gars qui vient faire son nid dans le nid du soldat parti en Afghanistan.
Le coucou.
Sympa.
Le coucou.
Kevin. Voilà. Vilain Kevin. Ce jeune officier de l'infanterie de marine, Nicolas Barthes, lieutenant, peut-être capitaine aujourd'hui, Nicolas Barthes, était diplômé de l'enseignement supérieur, diplômé de Sciences Po Paris,
oui.
D'ailleurs, comme vous.
En école, oui.
Ouais. Vous-même, est-ce que vous auriez pu être soldat?
Non, je pense pas, parce que j'ai pas des problèmes avec l'autorité, mais j'éprouve pas spécialement de volupté à obéir.
Je croyais que vous alliez me dire que vous aviez les pieds plats.
Non, je me verrais pas du tout en tant que militaire, c'est-à-dire exécuter des tâches sans pouvoir les discuter. Moi, j'aime plutôt discuter. Donc, ça m'aurait pas trop convenu, je pense.
Vous êtes né en 75, vous êtes d'une génération qui faisait son service militaire, et vous ne l'avez pas fait, vous.
Exact, parce qu'en fait, ma famille a été inscrite au Fonds des victimes du terrorisme. Qu'enfant des victimes du terrorisme, j'ai été exempté et non pas réformé.
Vous avez été exempté.
Voilà, j'ai été exempté.
Après une année de Cagnes au lycée Fénelon à Paris, vous vous êtes dirigé vers une licence de philo, puis donc vers Sciences Po. À un moment, vous avez envisagé un DESS d'urbanisme. Qu'est-ce que vous en auriez fait de ce DESS d'urbanisme, Alexandre Kaufmann?
Je sais pas trop. En fait, ça m'intéressait parce que ça touchait à plein de domaines différents, la philosophie, l'histoire, l'architecture, la sociologie, justement, encore. Et c'est justement pour ça que j'ai arrêté, parce que justement, il y avait trop de matières différentes, donc finalement, il n'y en avait plus aucune qui était vraiment traitée. Donc c'est pour ça que finalement j'y ai renoncé.
Alors philo, Sciences Po, urbanisme dans le projet en tout cas. Et finalement en 1999, vous alliez avoir 24 ans, vous vous êtes envolé pour Madagascar afin d'y apprendre le malgache, comme vous avez appris le swahili en Afrique de l'Est. Pourquoi ce séjour sur les hauts plateaux de Madagascar? Dans quel but, Alexandre Kaufmann?
Alors c'était dans le but de passer un examen qui s'appelle le Quai d'Orsay, si je me trompe pas, et qui ou cadre d'Orient, et qui était un concours qui permettait de devenir diplomate. Moi, ce qui me plaisait, c'est d'être en poste. C'est à peu près 3 ans les mandats des diplomates. C'était juste le temps qu'il fallait pour apprendre une langue étrangère. Et donc, ça m'aurait vraiment plu d'être 3 ans dans chaque pays pour pouvoir juste le temps d'apprendre la langue. Et donc, ce concours était plus facile à passer quand on apprenait une langue rare et étrangère. Moi, je connaissais déjà un peu Madagascar, et donc c'est la langue que j'avais choisie pour passer ce concours. Donc, je suis parti l'apprendre. Et voilà, j'ai raté ce concours finalement.
Vous seriez diplomate. Voilà. Vous parlez le malgache, vous parlez le swahili, vous parlez l'anglais très certainement, vous aviez l'air de comprendre l'espagnol tout à l'heure.
Non, le portugais, j'avais appris le portugais au Mozambique, mais ça fait bien longtemps que là, je ne l'ai pas pratiqué.
Et en fait, de diplomatie, ce séjour à Madagascar vous a fait suivre une nouvelle orientation vers l'écriture. Vous avez publié Charléa, un recueil de nouvelles, livre intitulé « Mauvais numéro ». Et ce mauvais numéro n'était pas si mauvais que ça, puisqu'il vous a valu un prix, Alexandre Kaufmann.
Oui, le prix Alexandre Vialat en 2001.
Pour un début, ça marche plutôt bien. Premier livre, premier prix.
Ouais, c'était plutôt une chance, ouais, pour un premier livre, c'est vrai. Surtout des nouvelles, puisqu'en général, on dit toujours en France que les nouvelles
ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
On dit que ça marche aux États-Unis, par exemple, voilà. Dans des pays comme ça, mais certainement pas chez nous.
Voilà. Donc j'étais.
Et vous obtenez
content.
Un prix avec ça.
Voilà. J'étais très content.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 25 ans.
Oui, bah, y a de quoi être content, je comprends. Philo, Sciences Po, une tentation pour l'urbanisme, puis pour une carrière diplomatique, tout ça pour en venir à l'écriture de reportages, de voyages, de livres, et même de chansons, puisque vous êtes aussi parolier pour des groupes musicaux. Il n'y avait pas de chemin plus court vers l'écriture?
Vers l'écriture des livres?
Ouais, parce que avoir autant hésité avant d'en arriver à écrire pour le reportage, écrire pour le livre, de toute façon, écrire, parce que vous passez votre vie à ça.
Bah oui, mais finalement, j'ai pas vraiment, enfin, je me suis un peu laissé porter par les circonstances, et puis, tout en écrivant, donc finalement, j'ai pas trop, j'ai toujours fait un métier qui était lié à l'écriture, ouais, non, ça m'a pas spécialement paru long pour y arriver, puisqu'en fait, j'ai quand même commencé à faire des livres avant de vraiment devenir journaliste. Donc, non, je ne sais pas si c'était vraiment long.
Il n'y a pas un peu d'instabilité chez vous, le fait de jouer à saut de frontière comme ça, de passer d'un projet à l'autre? Non.
Si, sans doute, un peu un côté adolescent attardé, c'est-à-dire que j'ai toujours pas vraiment, j'ai toujours pas fondé de famille, et puis je continue à me déplacer beaucoup.
Pas de couple, pas d'enfant.
Pas de couple, pas d'enfant. Et puis là, j'ai
voilà, 40 ans, bientôt.
J'habite chez mon frère.
Donc, tiens, chez moi, j'habite chez mon frère. Ouais. C'est Alexandre Kaufmann. Oui, il y a quand même un petit peu d'instabilité là-dedans.
Mais c'est bien l'instabilité.
116 rue Albert Londres, Alain Le Gougec.
Nous parlerons de l'instabilité dans un instant. Il y a quelques jours, Damon Albarn était l'invité de Boomerang sur France Inter. Blur, Lonesome Street.
Done. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le procureur général de la Colombie, Carlos Mauro Hoyos, a été enlevé et assassiné hier par des tueurs appartenant au cartel de Medellín, la toute-puissante organisation colombienne spécialisée dans le trafic de drogue. Les tueurs ont intercepté la voiture du procureur sur une route proche de Medellín, précisément. 8 heures plus tard, son corps a été retrouvé criblé de balles, menottes aux mains et les yeux bandés.
C'était le 26 janvier 1988, le journal de 13h était présenté par Claude Guillaumin. À l'époque, Medellín, on dit Medellín, c'est ça?
Alors, les gens de Medellín disent Medellín.
Medellín, ah, en tout cas, c'est pas Medellín, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est en Colombie. Cette ville était synonyme de cartel des drogues. Le maître des lieux portait un nom que le monde entier connaissait. Il faisait frémir beaucoup de monde, celui de Pablo Escobar. Alexandre Kaufmann, vous rentrez alors de Medellín. Votre reportage sera publié dans les pages d'Air France Magazine. À quoi ça ressemble à présent cette ville?
Bah justement, Medellín. Bon, je dis
Medellín.
Medellín, on peut dire Medellín. Évidemment, beaucoup souffert de sa réputation liée à Pablo Escobar. Et aujourd'hui, il y a vraiment un dynamisme pour essayer de dépasser ça. Alors, les gens investissent énormément dans la culture. La ville est incroyable. Par exemple, ils ont construit dans les favelas. Enfin, ça s'appelle pas les favelas là-bas, mais
les quartiers populaires.
Les quartiers populaires. Ils ont construit des escalators pour monter en haut et des téléphériques. Pour unifier la ville, enfin, il y a vraiment une volonté de dépasser, de tourner le dos à ce passé sanglant qui est assez impressionnante et assez réussi en vérité. Et donc c'était l'objet de mon reportage, de montrer ce nouveau visage de Medellín. Voilà.
On peut y faire du tourisme en toute tranquillité.
Non, c'est vrai.
Aujourd'hui, c'est une question.
Oui, on peut. Je pense qu'on peut le dire. Ouais, on peut vraiment partir en toute tranquillité. Ça reste une ville qui peut être dangereuse, mais plus du tout comme elle l'était avant.
À cette époque, à l'époque où Medellín était la capitale des cartels de la drogue, de la cocaïne surtout, qui arrosait le monde, y seriez-vous allé en reportage, Alexandre Kaufmann?
Je sais pas. Je sais pas.
Parce que ça fait partie de ces pays où il fait pas bon être journaliste. Quand on y va, forcément, on voit ce qui se passe au Mexique, où les journalistes tombent comme des mouches dès qu'ils approchent un cartel de la drogue. C'était certainement la même chose à l'époque de Pablo Escobar en Colombie et des autres cartels d'ailleurs, parce qu'il n'était pas le seul.
Ouais, je sais. Enfin, évidemment, ça dépend des conditions dans lesquelles on voyage, quel magazine nous envoie, est-ce qu'il y a des moyens pour assurer notre sécurité. A priori, non. Je vous dirais non. Je ne serais pas allé à cette période.
Alors, on pourrait penser que c'est la peur du danger. Nous parlions tout à l'heure de l'Afghanistan, où pourtant vous n'avez pas hésité à accompagner une section de combat dans cette vallée de la Capissa. Alors que nos confrères Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier de France Télévisions étaient retenus en otage par les talibans, tout près de vous d'ailleurs.
Oui, c'était à quelques kilomètres de la base. D'ailleurs, ils savaient exactement, l'armée française savait exactement où ils étaient. Il les surveillait, je crois, avec des drones, mais évidemment, ils pouvaient pas intervenir.
Alors, j'en viens brièvement, rassurez-vous, à votre filiation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure à propos de votre exemption du service militaire. Comment éviter le sujet quand on porte votre nom, Kaufmann? En mai 1985, une semaine avant l'anniversaire de vos 10 ans, Jean-Paul Kaufmann, votre père, alors journaliste pour l'hebdomadaire L'Événement du Jeudi, était enlevé au Liban par un groupe islamiste, puis relâché après 1078 jours, près de 3 ans de captivité. Je suppose que dès que l'on entend votre nom, en tout cas très souvent, on vous parle de votre père, de cet épisode triste et tragique pour ce qui concerne son compagnon de captivité, Michel Seurat.
Ouais, c'est vrai que c'était il y a eu une saturation médiatique autour de cet enlèvement, mais qui était son assurance vie, parce qu'il y a toujours ce débat de savoir si on doit en parler ou ne pas en parler. Moi, ma mère, elle avait pris le parti d'en parler, et je pense
avec un courage inouï d'ailleurs.
Et ouais, je pense qu'elle a fait le bon choix. Et voilà. Donc pour nous, comme vous le disiez, son compagnon Michel Seurat n'est pas revenu, et donc nous, j'estime qu'on a vraiment eu beaucoup de chance de ce point de vue-là.
Michel Seurat est mort d'un cancer pendant cette captivité, et votre père a été libéré en même temps que Marcel Carton et Marcel Fontaine, qui étaient, je crois, tous les deux diplomates, donc après presque 3 ans de captivité pour ce qui concerne votre père. Il y a quelques temps, vous n'avez jamais envisagé, justement, pour ne plus être importuné par cette question, de prendre un pseudo?
Oh non, jamais.
Pour écrire, jamais?
Non, non.
Kaufmann, c'est votre nom et vous le gardez.
Voilà.
Bien, ça c'est dit. Il y a quelques temps, ici même, le 15 mars, 116 rue Albert-Londres, recevait Valentine Bourrat, dont le père, grand porteur reporter à TF1 a perdu la vie, lui, lors d'un reportage au Koweït. C'est ce père, Patrick Bourra, qui a donné à sa fille Valentine le goût du reportage.
Ça s'est passé en Afghanistan. Il m'a emmené, j'avais 16 ans et demi. Il m'a emmené à Kaboul et là, il m'a prêté une caméra. J'ai commencé à filmer. C'est là que j'ai découvert le métier un peu de caméraman. Enfin, j'ai commencé à voir ce que ça pouvait être et ça m'a beaucoup plu. Ça donnait vraiment envie.
Alexandre Kaufmann, est-ce votre père Jean-Paul Kaufmann qui vous a donné le goût du reportage et de l'écriture?
En fait, de l'écriture, oui, ça certainement.
Il a écrit lui-même pas mal d'ouvrages et oui. Il a reçu pas mal de prix aussi.
Oui. Mais l'écriture, ça c'est le journalisme, je suis moins sûr, mais l'écriture, oui, parce que justement avant sa détention, même pendant sa détention, je m'intéressais pas du tout au livre. Et c'est lorsqu'il est revenu de sa captivité que il m'a un peu initié à la lecture. Et de ce point de vue-là, on est vraiment resté très proche. On continue à beaucoup parler de livres, à s'échanger des livres.
Il lit les vôtres.
Ah bah oui, lis les miens, ouais. Ouais. Bah c'est, on se lit réciproquement nos livres, parce que finalement c'est assez difficile de trouver quelqu'un, par exemple pour lire un manuscrit, qui vous dise vraiment la vérité, qui ait pas peur de vous blesser, et même parmi des bons amis, finalement on se rend compte, enfin je me suis rendu compte moi que c'était assez difficile de trouver des gens qui puissent dire la vérité, et justement avec mon père on se tient bien ce langage de vérité, donc c'est, on se donne toujours à lire nos livres respectifs avant. Avant de les publier.
Vous alliez avoir 10 ans quand il a été enlevé, presque 13 ans quand il a été libéré. 3 ans d'absence d'un père, est-ce qu'on se remet de cette absence, de cette longue absence quand on est un enfant?
Nous on s'en est remis dans le cas de notre famille, puisqu'on a eu encore une fois, j'estime qu'on a vraiment eu, c'était 3 ans de cauchemar, mais un dénouement en fait très heureux. Et puis depuis 1988, finalement, on est resté une famille très unie, qui a pas connu de problème majeur, aucun problème de sang.
Et votre frère est documentariste, c'est ça?
Mon frère est historien.
Il est historien.
Ouais, il est historien spécialisé dans l'histoire de l'extrême droite.
Et il lui arrive de faire des documentaires.
Il fait des documentaires aussi. Il a fait notamment un documentaire sur Jean-Marie Le Pen qui s'appelle Le Diable de la République, je crois, pour France 3.
Pendant les 3 ans de captivité de votre père à Beyrouth, votre mère, Joëlle Brunery-Kaufmann, médecin gynécologue réputée, s'est beaucoup battue pour la libération de son mari. Elle s'est rendue plusieurs fois au Liban. Je la revois là-bas avec un foulard, un fichu sur la tête, impressionnante de courage et de détermination. Cette épreuve aurait pu la dégoûter à tout jamais de ce qui touche de près ou de loin à ce pays, mais non. Au contraire, pendant un certain temps au moins, elle a même semblé s'attacher au Liban. Et vous, Alexandre Kaufmann, vous qui ne cessez pas de voyager, n'êtes-vous pas tenté par ce lieu qui a été la prison de votre père ?
Alors non, justement, curieusement,
ça fait un beau livre.
Je m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas de curieux. Je connais assez mal d'ailleurs les enjeux du Liban et j'y suis jamais retourné, excepté pour aller chercher la dépouille de Michel Seurat en 2006, qui a été retrouvée 20 ans après sa mort. Et on est allé simplement une journée là-bas avec la famille de Michel Seurat et ma famille, et on est parti pour une journée simplement chercher la dépouille de Michel Seurat. C'est la seule fois où j'y suis retourné, puisque j'y étais allé aussi pendant la détention de mon père.
Mais vous, avec votre regard de ethnologue, anthropologue, vous auriez peut-être un petit peu de mal à dénouer tout ce qui se passe au Liban, parce que quand on parle d'un peuple comme peuple complexe et compliqué...
Là, on dit toujours sur le Liban que toutes les alliances possibles entre les factions ont existé. Ouais, je pense que c'est vraiment très complexe.
1983, Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. Quel bonheur, c'est Cyndi Lauper. Alexandre Kaufmann, vous aurez 40 ans dans un mois. Pas de vie de couple, vous le disiez tout à l'heure. Pas de famille à vous, pas d'enfants. En 2012, quand vous arrivez en Tanzanie pour vivre 2 ans, vous constatez que vos 2 sacs pèsent 40 kilos et vous dites, voilà ce que pesait ma vie en France. Vous avez parcouru une 30aine de pays, vous avez enquêté en Thaïlande sur les backpackers, ces jeunes routards finalement très conformistes que l'on rencontre un peu partout dans le monde. Vous en avez fait un livre intitulé Travelers. Là, votre dernier récit, Black Museum, est consacré aux archers nomades de Tanzanie. En fait, vous êtes aussi nomade que tous ceux que vous observez, donc vous observez les mœurs, non ?
Bah, je le suis un peu devenu malgré moi, puisque en définitive j'ai quitté la Tanzanie sans vraiment l'avoir choisi après m'être séparé de ma petite amie, et du coup je suis revenu en France mais sans trop savoir si j'allais y rester, et donc du coup j'ai toujours ces 2 sacs, ils pèsent 40 kilos et je sais pas trop ce que je vais en faire, mais
c'est votre maison, tout est là-dedans,
c'est ma
en fait
maison,
vous êtes
voilà.
Comme une tortue.
Ouais, mais j'aurais jamais pensé, avant je l'étais pas du tout comme ça, j'avais vraiment besoin de revenir vers une base, et je me suis aperçu que finalement c'était pas si important, quand on pouvait très bien se passer de cette base.
Mais je reprends la Tanzanie, quand vous allez voir les Hadza et que vous voyez qu'ils sont pas exactement, ils correspondent pas exactement à l'image qu'on pouvait en avoir ici en Europe, vous revenez quand même un peu déçu certainement avant de les redécouvrir par la suite. Vous avez été déçu plusieurs fois, les backpackers c'est pareil en Thaïlande. Qu'est-ce qui vous fait repartir? Vous cherchez quelque chose, vous cherchez le Graal, vous continuez dans cette quête?
Bah, c'est toujours, je crois que la maladie congénitale du voyage moderne, c'est le romantisme. On pense toujours que en voyageant, en se déplaçant dans l'espace, on va remonter le temps. Et que c'est pour ça qu'on veut voir, par exemple, souvent une époque médiévale dans l'Orient, alors que c'est totalement erroné. C'est-à-dire qu'on se déplace vers d'autres sociétés qui sont pas du tout sur la même évolution linéaire que nous. Et c'est marrant parce que finalement, cette espèce de légende, ce mythe, ça a une prise sur moi. C'est-à-dire que j'essaye de me défaire de cette espèce de mythe romantique, mais j'en suis un peu la victime. Et donc à chaque fois, j'essaye de déconstruire cette illusion, mais ça recommence à chaque coup.
Sisyphe, Alexandre voilà. Kaufmann, c'est Sisyphe. Et son dernier livre s'appelle Black Museum, c'est un récit publié ce mois-ci chez Flammarion, et je vous invite très vivement à le lire. Un autre livre, celui de Bernard Kiefer, avec la collaboration de Benoît Colomba, sur le frère perdu, l'affaire Guy-André Kiefer, enquête sur un crime d'État au cœur de la France-Afrique. Guy-André Kiefer, notre confrère dont le corps n'a jamais été retrouvé, qui a disparu en Côte d'Ivoire pendant la guerre civile. Avant de prendre congé, sachez que j'accueillerai dimanche prochain le grand reporter de Libération Jean-Pierre Perrin. Avec lui, il sera surtout question du Proche et du Moyen-Orient, des guerres et des printemps arabes. Je le recevrai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On sera le dimanche 3 mai. Cette journée se traduira à Paris par un grand concert gratuit, j'insiste bien là-dessus, gratuit, organisé par Reporters sans frontières, place de la République, entre 17h et 23h. À l'affiche, Arthur H., Jeanne Chéral, Ulysses, Sly Johnson, Cassius et leurs invités. Merci Alexandre Kaufmann d'avoir accepté l'invitation de 116 rue Albert Londres. Montée d'air préparée et à réaliser cette émission, Christine Kern, Olivier Bétard, Thomas Jost, Jean-Baptiste Audibert et Jonathan Kietza. Si vous souhaitez réécouter cette émission et pour tout commentaire, une seule adresse, franceinter.fr, émission 116 rue Albert Londres. Dans un instant, vous entendrez les informations de 17h, puis vous retrouverez l'Afrique enchantée.